Pendant la guerre, j'avais 7-8 ans. Papa, il était parti à la guerre. Maman et mon frère, nous, on était à la maison. Ce qu'on avait, c'était surtout faim. Quand je rentrais à 4 heures, je disais à maman, donne-moi une tartine. J'ai pas de pain. J'ai fait cuire des pommes de terre. Tu peux les tremper dans du sel. C'était ça le goûter de 4 heures. Ce que a souffert maman pour nous dire ça, il n'y avait rien.
Mon beau-père était en Russie.
Il racontait qu'il mangeait des rats parce qu'ils n'avaient rien à manger. Quand il trouvait un rat, il se faisait le rat. Ma maman m'a envoyé dans le jardin et en revenant, il y avait des bombes qui tombaient. Et moi, mon tablier, je l'ai mis sur la tête en voulant me protéger. Après, sur le fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'aime pas me rappeler de la guerre parce que ça fait trop mal.
Moi, je vois encore les choses comme si c'était hier. En 1939, quand elle commençait la guerre, on a été évacués. C'était le 1er septembre, c'était un dimanche. J'avais à peine 9 ans. Hein. On nous a embarqués dans des wagons de bestiaux. Vous avez déjà entendu parler de la drôle de guerre, 39-40. Une maison était évacuée, l'autre non. Ou un côté de la rue était évacué et l'autre n'était pas évacué. Alors ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des cambriolages. Il y avait un côté qui piquait sur l'autre côté parce qu'il n'y avait plus personne. Après la guerre, il y avait qui suspendait des draps du voisin. En 40, au mois d'août, on est rentré. Il y avait le comité d'accueil qui nous jouait le Deutschland über alles dans la gare de Strasbourg. La jeunesse hitlérienne allemande qui était là et quelques Alsaciens qui étaient de peau nazie, qui étaient déjà là aussi, qui voulaient nous donner un coup de main pour rentrer avec nos affaires parce que le tramway ne marchait pas encore. Et puis à partir de là, on est allé à l'école allemande. Et j'ai ramassé des raclées presque tous les jours parce que je n'étais pas à la jeunesse hitlérienne. Il y avait des Alsaciens qui nous vendaient, qui étaient dans la jeunesse hitlérienne et qui nous inscrivaient dans leur carnet pour le donner à l'instituteur. Et l'instituteur, il nous foutait des raclées pour nous punir parce qu'on n'y était pas, parce que c'était obligatoire. Il vous faisait signer une feuille que vous êtes volontaire pour aller dans la jeunesse hitlérienne. Et quelqu'un ne la signe pas. Il a déjà peur. S'il a une bête devant lui, comme l'instituteur qu'on a eu, qu'il prend une raclée quand il refuse, ou que ses parents soient enfermés dans un camp. On savait bien qu'ils avaient des camps de concentration, hein, comme le Struthof ou Schirmeck. Il y avait bien un frère de ma mère qui était à Schirmeck. Mais pourquoi? Il avait chanté la Marseillaise quand il a passé le conseil de révision chez les Allemands. Il était pendant 3 mois à Schirmeck, et de là, il est tout de suite parti en Russie, dans l'armée allemande. On était forcés d'être allemand. Si on ne voulait pas, on vous tournait le cou. On avait un instituteur allemand, hein, du ST, c'est-à-dire du Sicherheitsdienst, un flic en civil, si vous voulez, un nazi, un vieux. Ça lui est arrivé une fois de tapasser toute une classe de 45 élèves parce qu'on ne savait pas une chanson allemande. Il nous a tous tapassés. Il nous a fait sortir un après l'autre. Puis alors il nous a tapassés avec un bâton. Il nous a tapé dessus. Oui, on a vécu tout ça, le jour de la libération. Ah, je me rappelle encore, on est allé les recevoir sur la route de Brumath, à Bischheim, les premiers qui sont arrivés, sur les premiers chars qui venaient. Il y avait des Alsaciens dessus qui nous criaient, « descendez de la rue, on n'est pas à la foire, là. Hein, ça, vous pouvez le faire en 8 jours, mais pas maintenant. » Les gens qui habitaient là, ils leur indiquaient les endroits où il y avait encore des Allemands, où ils sortaient les Allemands des caves, ils les avaient fait prisonniers eux-mêmes. Ou disons, les Allemands se sont laissés faire prisonniers, parce que les gens leur ont dit, si vous vous rendez, ils ne vous feront pas de mal. Posez vos armes et rendez-vous. Je me rappelle encore, il y avait un jeune, un Allemand, un rouquin. Il faisait presque 2 mètres. Il avait peut-être 17, 18 ans. Il a pleuré. Un des militaires, des troupes de Leclerc, qui dit, « Sauk, mich nicht grine, ma mordre jo nit. Ne pleure pas, on te fera rien, on te fera pas de mal. » Et puis il lui a donné un bout de chocolat. Oui, mais les Américains ne sont pas venus les premiers. C'était les troupes françaises. Les Américains sont seulement venus quelques jours après. Ils sont venus avec les grosses pièces, avec l'artillerie. Et puis ils se sont installés, puis ils ont tiré à Kiel et partout dans les villages au bord du Rhin, là. On craignait qu'ils reviennent, hein. Les Allemands. Heureusement qu'il y avait des inondations, la fonte des neiges. Ça a empêché les Allemands de revenir. Et puis après, les Français ont envoyé des tirailleurs marocains sur la route du vin, à pied, avec les mulets. Je les ai vus partir et je les ai vus revenir, avec des colliers, avec des oreilles enfilées qu'ils avaient coupées aux Allemands. Ceux qu'ils ont tués, ils leur coupaient les oreilles et puis ils les ramenaient et après ça, ils étaient payés. Ils avaient des primes. Mais une dizaine de jours après, il y avait les morts des Marocains qui sont revenus allongés, échelés, entassés sur un camion. Il y avait bien une cinquantaine de Marocains qui sont morts là-bas, pour la France. Il y avait les Américains qui sont venus, et puis il y avait un gars qui savait l'anglais et qui leur a expliqué qu'ils étaient forcés d'être soldats allemands. Ils les ont mis dans des wagons de charbon, des wagons sans toit, en uniforme allemand, pour les libérer. La légende a fait la ronde, il y a un train avec des prisonniers allemands dedans. En haut des ponts, ils leur ont foutu des pavés et des briques sur la tête. Les Français, les Hollandais, les Belges, ils croyaient que c'était des Allemands. Seulement parce qu'ils les ont laissés dans ces sacrés uniformes et qu'ils n'ont pas prévenu avant que c'était des Français. Il y a même eu des morts. Nous, on était dans les champs, on ramassait des épis pour nourrir les lapins à Sermersheim. Puis j'avais mon cousin, ma cousine avec moi. À ce moment-là, j'avais peut-être 13 ans, lui, il avait 8 ans. Ma cousine, elle avait 6 ans. Et on entend des avions. Et nous, on s'est protégés dans un champ de tabac. Il y a des balles qui nous ont sifflé devant le nez, qui sont rentrées dans la terre. Et puis, il y avait des billets de tabac qui se sont envolés, qui ont été déchiquetés par les balles. Et nous, on était couchés là-dedans. Moi, j'avais les deux gamins, un à droite, l'autre à gauche. Quand on s'est levé, quand on a vu cette locomotive, elle sifflait de tous les trous des balles. La vapeur, elle ne sortait plus par la cheminée, elle sortait par les trous. Elle était transformée en passoire. Et le lendemain, on a vu de Sermersheim comme ils bombardaient Strasbourg. Ils ont lâché des fumigènes, et puis alors, ça a commencé, que la terre a tremblé jusqu'à ses destins. Vous vous rendez compte? Et le lendemain, on est rentrés, nous, ma tante et les deux gamins, on est revenus chez mes parents, à Schildigheim. Mes parents avaient eu une bombe derrière, elle a pulvérisé deux camions. Un moteur était planté chez nous dans le deuxième étage, dans le grenier. Le deuxième moteur était sur les escaliers, à l'entrée de la maison. Ils ont dévasté presque tout Strasbourg, les Américains, et ils savaient bien qu'ils étaient sur le côté français. Ah oui, ils ont arrangé la ville. C'était le 8 mai 1945, c'était l'armistice. On était sur l'arche du pont du canal, à 8 mètres de haut. On a sauté dans le canal.
Je me souviens très bien le jour que les Français sont venus, tous les copains, en fait tous les enfants du Rötisch, ont traversé le pont pour les accueillir. Je vois encore les soldats allemands qui ont été tués par les Français, qui étaient dans l'eau. C'est une image qui m'est restée aussi. Et puis on poursuivait les camions avec les soldats français pour avoir des chewing-gums, du chocolat ou du pain blanc. Comme on n'avait pas grand-chose, on courait après pour avoir ça.